Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Février 1962, 8 février 2022, il y a 60 ans, une manifestation pour la paix en Algérie se soldait par 9 morts et plus de 250 blessés au métro Charonne à Paris. Une répression sanglante menée par une police sous autorité du préfet Maurice Papon. Emmanuel Macron a rendu ce mardi hommage à la mémoire des victimes. Une première pour un président français. Sur cette page de l'histoire de la fin de la guerre d'Algérie, nous écouterons l'historien Gilles Manceron. Le Forum des mondes méditerranéens à Marseille, forum initié par Emmanuel Macron, le chef de l'État français a défendu la richesse plurielle des Français venant des diasporas du Levant, du Maghreb, d'Europe du Sud. Réaction de l'Union européenne après la décision du président tunisien de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature. L'Union se dit préoccupée, les États-Unis également font part de leurs préoccupations. Au Soudan, les manifestations contre le coup d'État du 25 octobre ont à nouveau été sévèrement réprimées par les forces de l'ordre hier. Un collectif de médecins fait état de plus d'une centaine de blessés, dont une dizaine par balle. Trois Palestiniens ont été tués ce mardi par des tirs de l'armée israélienne à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Les polémiques à répétition sur l'islam sont stériles et ne résolvent en rien les difficultés de la société française. Voilà ce qu'affirme dans une tribune au Monde un collectif de chercheurs, dont l'historien et spécialiste de l'islam, Olivier Hahn, que nous écouterons. L'invité de Pluriel ce mardi à 19h et 23h est Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, maire UDI de Mennecy, soutien de Valérie Pécresse. Il dressera un bilan d'Emmanuel Macron sur la question du logement, extrait dans votre édition. C'était il y a 60 ans. Une manifestation réclamant la paix en Algérie était violemment réprimée à la station de métro Charonne à Paris. Une manifestation pacifique le 8 février 1962 qui avait pour mot d'ordre contre les crimes et attentats de l'organisation de l'armée secrète et pour le droit à l'autodétermination du peuple algérien. Un rassemblement réprimé par la brigade spéciale de police placée sous l'autorité directe du préfet Maurice Papon. Il sera dénombré 9 morts et plus de 250 blessés. Emmanuel Macron a rendu ce mardi hommage dans un communiqué à la mémoire des victimes et de leurs familles, une première pour un président français. Sur cette page de l'histoire de la fin de la guerre d'Algérie, entretien avec l'historien spécialiste de la période coloniale, Gilles Manceron.
C'était absolument la dernière ligne droite de cette guerre d'Algérie et des négociations des Vians qui devaient y mettre fin et qui y ont mis fin le 18 mars 62. On était vraiment au bout de ces négociations. Et le contexte qui explique en grande partie la violence de la répression, c'est que au sein même du gouvernement français, tout le monde ne suivait pas la volonté du général de Gaulle de convenir d'une indépendance de l'Algérie par une transition avec le FLN et le GPRA. Et certains ministres, le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, qui avait été nommé là en mai 61 à la demande de Michel Debré, qui était aussi réticent par rapport à cette indépendance. Il démissionnera dès les accords d'Évian signés. Donc, Roger Frey, Michel Debré, le Premier ministre, le préfet de la Seine, Maurice Papon, sont des adversaires de cette indépendance en accord avec le FLN et le GPRA. Et donc, Debré n'a plus que la responsabilité du maintien de l'ordre en France et il va s'en servir à fond en donnant une sorte de blanc-seing à Roger Frey et à Maurice Papon pour réprimer avec violence cette manifestation du 8 février 1962.
Et dans quelles circonstances les victimes ont été blessées ou tuées?
Il y a eu une agression, on ne peut pas appeler les choses autrement, par les brigades spéciales de la préfecture de police de Paris, organisées par Maurice Papon, contre une foule qui était en train de se disperser après avoir manifesté contre les attentats de l'OAS, en particulier contre celui au domicile d'André Malraux qui avait défiguré une petite fille de 4 ans, la petite Delphine Renard, contre ces manifestants, les brigades spéciales se sont lancées à l'assaut avec une volonté de tuer. C'est ça l'exceptionnalité de cette répression, parce que des manifestations réprimées, il y en a un peu partout dans le monde. On peut mettre des barrages, se servir de jets d'eau ou d'autres méthodes, de gaz lacrymogène ou je ne sais quoi, dans la répression des manifestations. Là, c'est une violence particulière qui a tué un certain nombre de manifestants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La foule qui se dispersait a été chargée au métro Charonne, au coin du boulevard Voltaire et de la rue de Charonne, et les gens, pour s'échapper, se sont engagés dans une petite rue, rentrés dans une porte cochère, ont descendu, et nombreux ont été ceux qui ont descendu l'escalier du métro. Mais il y avait trop de foule pour l'étroitesse d'un escalier d'une station de métro, et les gens sont tombés et se sont amassés, si je puis dire. Et c'est là où les brigades spéciales de Maurice Papon ont continué leur œuvre meurtrière. C'est-à-dire qu'ils se sont servis de ce qu'on appelait à l'époque des bidules. C'était de longues matraques d'un mètre de long qui étaient lestées et qui étaient de véritables casse-têtes. Et ils ont frappé les manifestants entassés et ils ont lancé sur eux des grilles d'arbres qu'ils ont arrachées au pied des platanes du boulevard Voltaire. Et ils ont lancé ça sur la foule. Et donc, il y a eu 9 morts, victimes de traumatismes crâniens et de blessures diverses, en raison de cette violence. C'était une violence meurtrière.
Pour la première fois, ce mardi, un président de la République française a rendu hommage à la mémoire des victimes et à leurs familles. Comment interprétez-vous ce geste d'Emmanuel Macron ?
J'ai lu effectivement les 3 lignes du communiqué publié par l'Élysée. Bon, c'est un service minimum, encore plus minimum, que ce qu'il avait fait pour le 17 octobre 61. C'est-à-dire, pour le 17 octobre 61, il s'était déplacé, le président de la République, au pont de Beson, et il avait déposé une gerbe à cet endroit. Et donc, c'était un geste qui n'était pas accompagné de paroles, de prise de parole. Il y a eu un communiqué aussi à l'époque plus long que celui qui vient de paraître. Mais il y avait un geste qui n'allait pas jusqu'à la reconnaissance d'un crime d'État commis le 17 octobre 61, mais cette fois-ci c'est encore moins. Alors bien sûr, il ne parle pas d'un crime d'État. C'est une première. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Je ne sache pas que ses prédécesseurs aient, à l'occasion du 8 février 61, fait des gestes en ce qui concerne les présidents de la République qui l'ont précédé. Mais le maire de Paris, Bertrand Delanoë, avait inauguré une place du 8 février 62 au croisement des boulevards Voltaire et rue de Charonne en 2007. La mairie de Paris a fait des choses beaucoup plus importantes que l'État sur ces questions mémorielles. Hein, on pourrait en citer d'autres exemples, la plaque du Pont Saint-Michel, la place Maurice Audin en 2004, à côté de la mutualité dans le 5e arrondissement. Donc, c'est vrai, c'était Bertrand Delanoë, c'était pas François Hollande qui a été à la présidence de la République à partir de 2012. Donc, oui, on peut noter que Emmanuel Macron a marqué par un bref communiqué cette journée et que ses prédécesseurs ne l'avaient pas fait.
L'historien Gilles Manceron. 3 Palestiniens ont été tués ce mardi par des tirs de l'armée israélienne à Naplouse. C'est arrivé dans le nord de la Cisjordanie occupée. C'est ce que rapporte le ministère de la Santé palestinien, sans détailler les circonstances des faits. La police aux frontières israéliennes a affirmé qu'une cellule terroriste a été neutralisée lors d'une opération conjointe de plusieurs unités de police et de l'armée. Le Forum des mondes méditerranéens initié par Emmanuel Macron s'est tenu ce lundi et ce mardi à Marseille. Lors d'une allocution en visioconférence, France devant le forum. Le chef de l'État français a défendu la richesse plurielle des Français venant des diasporas du Levant, du Maghreb, d'Europe du Sud. Nos diasporas, nos binationaux sont une chance formidable pour la France et nous devons les aider à réussir, y compris de l'autre côté de la Méditerranée, selon le propos du président français. Emmanuel Macron a annoncé un fonds de 100 millions d'euros pour les entrepreneurs vivant en France qui veulent investir au Maghreb. L'Union européenne est préoccupée par la décision du président tunisien Kais Saied de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature. Les États-Unis aussi font part de leurs préoccupations après cette décision du président tunisien. Une justice indépendante est un élément crucial d'une démocratie efficace et transparente. Il est essentiel que le gouvernement de Tunisie tienne ses engagements à respecter l'indépendance de la justice conformément à la Constitution, a dit le porte-parole de la diplomatie américaine. Au Soudan, les manifestations contre le coup d'État du 25 octobre ont à nouveau été sévèrement réprimées par les forces de l'ordre. Hier, un collectif de médecins fait état de plus d'une centaine de blessés, dont une dizaine par balle. À Khartoum, les forces de l'ordre ont empêché les cortèges de se diriger vers le palais présidentiel, où siège le Conseil de souveraineté dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan. Les polémiques à répétition sur l'islam sont stériles et ne résolvent en rien les difficultés de la société française. C'est ce qu'affirme dans une tribune au Monde un collectif de chercheurs, parmi eux l'historien et spécialiste de l'islam Olivier Hahn.
Nous sommes une petite dizaine de chercheurs spécialisés dans l'histoire de l'islam, l'histoire de la théologie musulmane, la géopolitique des pays musulmans, il y a aussi un juriste. Et en fait, à travers nos études, à travers nos enquêtes de terrain, nos voyages d'études, nos travaux sur les textes, textes arabes, textes musulmans, en fait, on se rend compte de plus en plus que ce qui est dit de l'islam en permanence ne correspond pas aux réalités sociologiques, ne correspond pas aux réalités des pratiques de culte, pratiques théologiques, etc. Et que, en fait, le monde médiatique, et évidemment des hommes politiques derrière ce monde médiatique, construit une image monolithique de l'islam, dans lequel la plupart du temps les musulmans eux-mêmes ne se retrouvent pas, ou alors qui confirme des jugements a priori que certains musulmans peuvent avoir eux-mêmes de l'islam et que des Français aussi peuvent avoir. Et donc on se retrouve en fait dans un jeu assez pervers où une approche nuancée, multiple autour de l'islam n'est plus possible, même par les musulmans eux-mêmes dans lesquels, parce qu'on les enferme en fait dans des définitions.
Et dans cette tribune, vous rappelez la permanence des échanges humains, intellectuels et commerciaux entre chrétiens et musulmans au cours de l'histoire.
Mais oui, alors bien évidemment, on n'est pas des naïfs, on connaît l'histoire. Il y a eu des affrontements, mais au-delà des affrontements, en fait, les deux rives de la Méditerranée n'ont cessé d'être en accord, n'ont cessé d'être en dialogue. Dialogue commercial, maritime, les intérêts des grandes villes portuaires italiennes sont en interaction permanente avec la Barbarie, l'actuelle Tunisie, le Levant syrien. Et on a des centaines de diplomates européens qui vont dans l'Empire ottoman pour découvrir, pour apprendre. On a des hommes qui parlent le persan, qui parlent l'arabe. Et à l'inverse, on a des gens issus du monde musulman, quel qu'il soit d'ailleurs, qui vont en Europe, souvent Europe méridionale, et où les échanges se créent. Et donc, on ne peut pas dire que nos deux univers sont forcément liés à la confrontation, puisque historiquement, ça n'est pas vrai. Et puis, l'immigration a changé la donne. Et c'est là où, malheureusement, un grand nombre de nos contemporains ne comprennent plus que le monde dans lequel ils étaient nés, ce monde a changé. Et on peut tout à fait assumer une France qui a changé, sans tirer sur les communautés musulmanes qui vivent en France, et on peut trouver des manières de vivre ensemble qui passent par le respect du droit, qui passent par la prise en compte d'une certaine forme d'alterculturalité. Et tout ça est parfaitement possible.
Olivier Hahn, il est l'auteur de « L'Europe face à l'islam, histoire croisée de deux civilisations, 7e, 20e siècle » chez Talandier. Il répondait à Loïc Barrière. L'invité de Pluriel, ce mardi à 19h et 23h, est Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, maire UDI de Mennecy, soutien de Valérie Pécresse. Il dresse un bilan d'Emmanuel Macron sur la question du logement. Extrait.
Le bilan, il est extrêmement sévère. La Fondation Fondation Abbé Pierre l'a fait, mais ça a été la RLS qui a appauvri les bailleurs, ça a été la diminution des APL, ça a été l'augmentation de la TVA sur le logement social, ça a été l'effondrement du nombre de logements construits et livrés sur cette mandature. Ça a été un des points noirs du quinquennat d'Emmanuel Macron, avec d'ailleurs une absence de ministre du logement lors de l'installation du premier gouvernement Macron, ce qui montre à quel point c'est quelque chose qui n'était pas son sujet. Après, le président de la République est un chat politique, il mesure bien que ça fait partie des zones d'ombre de son quinquennat, et je pense qu'il va essayer de rebondir, de faire des promesses, de faire des annonces. On part de très loin, parce qu'il faut bien avoir conscience que le logement, ça correspond à deux choses. C'est l'endroit où on passe le plus de temps, c'est l'endroit où on vit le plus, c'est l'endroit qui conditionne la qualité de vie, la possibilité de se développer, puis c'est aussi un autre sujet, c'est le principal pôle de coût dans un foyer. Le coût du logement n'a cessé d'augmenter depuis 20 ans et il a augmenté plus vite que les revenus, et donc le logement est le premier pôle de dépenses des Français. Vouloir rendre du pouvoir d'achat aux Français, vouloir rendre de la dignité aux Français, c'est pas faire un chèque de 100 euros plus ou moins mal distribué aux uns ou aux autres, c'est permettre de gagner sur le logement.
Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, maire UDI de Mennecy, soutien de Valérie Pécresse, il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h, émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, un grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.